Alleluia, 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 alleluia.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. De Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on se mariait jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Il en sera ainsi pour la venue du Fils de l'homme. En ce temps-là, deux hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur arrive. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ton évangile, Seigneur, t'inscrive dans nos âmes, qui nous lave de toutes nos fautes, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Que ton évangile, Seigneur, soit notre délivrance par toute la terre, comme la rosée dans la verdure. Elle pénètre toutes ses assoiffées. Assoiffées de toi. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. On va s'asseoir un petit peu peut-être. Le mur de la maison. Comme dit le cantique, tu faisais un seul de tes cheveux. M'a ouvert le cœur. J'aime bien cette histoire des cheveux, Saint Jean de la Croix, il explique bien ça. Il dit c'est. Cher père, Marie-Dol, lui disait, mettez une petite, la colombe là, vous, du Saint-Esprit, c'est vrai que c'est. Tu crois que tu fais une caresse, mais maladroitement, parce que un petit toucher, une petite pichenette, sur l'œil de la colombe, ouf, elle s'en va. Le Saint-Esprit est proche. Je pense quelquefois à la destinée de l'Antéchrist, c'est pas. C'est. Bon, d'accord, c'est le point d'orgueil finalement. C'est le petit cheveu de la fin qui se révèle à la fin, qui l'aura motivé, ça ne sera pas été finalement la gloire de Dieu. Quoi. Quand le Fils viendra. Vous avez remarqué que dans l'Évangile, donc il dit, voilà, le Seigneur reviendra. Là. Quand Jésus viendra, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur. Voilà. Alors c'est le voleur qui vient, ou bien c'est le Seigneur qui vient, quoi. Je sais pas, vous voyez, il parle. Hein. Vous avez remarqué qu'il y a les deux, c'est simultané en fait. Et quand le voleur vient, il perce le mur de la bête. En hébreu, c'est bête la maison, c'est-à-dire du temple. Il perce le mur du temple, celui qui se trouve du côté gauche du temple, du côté de l'Aquilon, du côté du nord. Donc, Seigneur, ici, même dans ce petit passage d'aujourd'hui, il désigne encore ses costumes et ce même incroyable. Hein, parce que sur l'aile du temple, on le voit dans Ézéchiel, c'est on perce le mur de l'aile gauche du temple hein, pour qu'il rentre, s'approche en direction de l'hôtel des Parfums. Hein. Mais il y a ceux qui sont vigilants, heureusement, quoi, hein, qui sont là. Et le Seigneur aussi est vigilant, quoi. Donc la vigilance, elle se tient dans le sein des saints par rapport à l'aile gauche du temple. J'aime bien ce petit passage aussi. De toute façon, c'est marrant parce que quand ça, c'est l'interprétation littérale, quoi. C'est pas une interprétation très spirituelle ni très mystique, mais très prophétique, donc mais littérale, quoi, littéralement. Même si on est. On sait que c'est ça, quoi. Ou alors, faut vraiment. Pas s'intéresser à la question, quoi. C'est ça. Mais ça n'empêche pas. On peut bien être comme l'Antichrist au courant de tout. Saint Albert le Grand disait que l'Antichrist n'aura pas trouvé sur la terre aucune personne qui connaisse mieux la révélation et la Bible et la révélation que l'Antéchrist. C'est quelqu'un qui pourra lire. Moi, j'aime bien dire comme ça, en disant un langage moderne. Je dirais, l'Antéchrist, c'est celui qui est capable de lire tous les textes de la Bible en 3D. En relief, quoi, parce qu'on sait très bien qu'on peut lire la Bible avec, bon, très bien. En 2D, parce que voilà, tu fais par exemple les mots codes, les mots, les trucs secrets. Par l'ordinateur, c'est sûr. Au temps de l'ordinateur, on peut très bien connaître la Bible en 2D. Les codes secrets, c'est ça. Hein, tu sais Carole Wojtyla, tu sais qui c'est Carole Wojtyla, un Polonais. Bon, hein, tu sais Carole Wojtyla, tu le sais, moi je l'ai fait. C'est la première recherche que j'ai faite en ordinateur, par code secret. C'est pas compliqué, on a quoi. Voilà. Puis on voit ça, que, voilà, il apparaît en relief comme ça. En relief, en 2D, quoi. Pas en 3D, en 2D. Voilà, au moment où on dit, voilà, que je suis injuste au milieu de ce monde totalement corrompu, pour être la consolation de Dieu et des multitudes. Voilà, c'est à cet endroit-là qu'il y a Carole Wojtyla, avec un saut de lettres de 153 lettres. Impressionnant. C'est là où il y a le soleil minimum pour Carole Wojtyla et puis il y a sa première encyclique comme ça en titre autour. Comme ça. Bon, c'est en traverse quoi. C'est Redemptor Hominis, sa première encyclique. Redemptor Hominis. Quand on reprend le texte et on redistribue 153 fois quoi. Donc, ça fait une nouvelle page de lettres hébraïques. Bref, bon. Bien sûr, il y a tout dans la Bible. Bon, eh bien, l'Antéchrist, il saura tout ça. Il possédera la Bible de manière comme jamais personne. Aussi bien de manière très, j'allais dire, électronique, mais que aussi, je pense, parce qu'il ne faut quand même pas le prends pour un imbécile. Que spirituel aussi, hein. Pas seulement le robot, ce sera pas un robot. Mais il sera passionné par ça. Alors quand c'est en 3D, tu te rends compte, il suffit, tu... L'homme va être capable de faire ça. Si quelqu'un s'y met, je suis sûr, quelqu'un qui s'y met un petit peu en un spécialiste de 3D, hein, c'est-à-dire, bon, je prends par exemple... voilà, je prends par exemple... c'est pas le visage de quelqu'un. Pourquoi pas, hein, bon, de Benoît XVI, par exemple, je dis n'importe quoi. Hein. Voilà, et puis en 3D, je le balance, voilà. Voilà, morphogénétiquement, il est impossible à identifier à quelqu'un d'autre que lui. Bon, je le balance, je demande à l'ordinateur où est-ce qu'il se trouve dans la Bible, en 3D. Voilà, et du coup on peut faire évoluer aussi. Tout est dans la Bible. C'est vrai que tu enlèverais une seule lettre de la Bible, tu ne trouverais pas ça. Une seule lettre suffirait. Ça tombe, fait tomber tout l'édifice. Moi, c'est à cause de ça que ça m'avait intéressé, cette recherche à l'époque. Et puis on pouvait le faire, donc c'était intéressant de savoir qu'on peut faire ça, qu'on ne peut pas faire ça avec la Bhagavad Gita. Avec la Bhagavad Gita, il n'y a rien du tout. Avec le Coran, alors, non, même pas, c'est même pas la peine d'en parler.
Dieu merci.
Et il n'y a que la Bible qui a ça, la Bible, la Torah. Hein, la Torah. Pas seulement la Torah, tout le Tabac. Tout le Tabac. Mais aussi, il y a des lois qu'on n'a pas trouvées encore, mais on en a repéré quelques-unes pour le Nouveau Testament. Le problème, c'est qu'on n'a pas de texte à la lettre près pour le Nouveau Testament. Mais ce sera facile, avec le logiciel, de retrouver le texte original du Nouveau Testament. Tout est dans la Bible. Et l'Antéchrist, bon, il ne sera pas intéressé seulement par ce côté extérieur, curieux, permet de scruter un petit peu comme font les gens de Rennes le Château, quoi. Il leur faut trouver des trucs, David Zicot, des trucs machin, il maîtrise tout, il part en contrôle de la situation. Tous les ramons de son service. Bon. Ce pauvre. C'est des braves types en même temps, et puis ils se mettent à genoux. Mais il y a ce petit cheveu là. Il y a ce petit cheveu. Une petite nette sur l'œil de la colombe, il faut terminer, il n'y a plus rien. Alors ils font attention quand même à ne pas mettre la pichenette quand même. Bien sûr, ils le savent. Mais il y a encore ce petit. Alors à la fin, ce que fait l'union transformante, c'est qu'elle fait unir par mettre à la surface le petit point qu'on n'avait jamais voulu regarder, quoi. Et qui était le fond, hein, le principe même de notre finalité. Si le principe de notre finalité, c'est nous-mêmes, c'est ce petit point d'orgueil, même minuscule, ça fait tomber tout l'édifice, c'est terrible. C'est terrible, moi, je trouve. La destinée d'Antéchrist, je suis... Je sais pas, je le juge pas, quoi. Je sais pas comment dire. Ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui, quoi. Je le condamne, ça, oui. Le Seigneur le condamne, donc je veux suivre la condamnation du Seigneur. On peut pas. Lorsque, dès qu'on repère un point d'orgueil, il faut. Dès qu'on le repère, quand on le repère pas, bon, il nous fait faire un travail, comme dit Satan porte-pierre. Vous comprenez ? Satan contribue à la construction. Alors, très bien. Mon petit point d'orgueil, il m'a servi quand même un petit peu de temps en temps à casser la gueule. À un confrère, quoi. Bon, très bien. Et tant mieux. Mais quand tu tu le rep... quand il est repéré, ça y est, quand il est monté à la surface, là, il ne faut pas traîner. Là. Et comme on disait au repas, je ne sais pas quoi, c'est une seule fois. Hein. C'est quand il y a un message à parole à te donner pour... C'est une seule fois, hein. Je ne te dirai pas une deuxième. Après, c'est foutu. C'était parti. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, cette espèce de délicatesse spirituelle, mystique et surnaturelle, c'est celle qui caractérise l'arrivée, enfin, l'introduction dans les sixièmes demeures. Elle est importante, cette délicatesse-là, vraiment. Hein. Alors là, oui, le Seigneur viendra. Ah oui, c'est le maître de la maison, ça fait. Il ne serait pas percé. Donc le maître de la maison, ça veut dire, c'est pas moi, le rabbi, hein, c'est vrai que l'Église ne l'a pas vu venir, hein, ce Sikhu Simé soi-même.
On était dedans, d'ailleurs.
Et c'est à ce moment-là, pourtant. Mais une fois que tu le sais que c'est le moment-là, à ce moment-là, tu traînes pas. Hein. Je pense que ça, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre, mais c'est pas très profond. C'est vrai, parce que ça se passe dans des laboratoires, ça se passe dans des officines de loges, ça se passe dans des... Donc c'est la grosse caisse, quoi, c'est la grosse caisse, c'est... Bon, c'est aujourd'hui qu'on vote en France, voilà, c'est bon. La grosse caisse, quoi. On prend autorité au passage, d'ailleurs, on prend autorité. Ils sont même écrasés, évaporés, réduits en cendres, qui restent tous des embouts de tous les côtés, qui pourrissent, ah, qui montrent l'horreur, la puanteur, avec tous les embouts ainsi dispersés, puis jamais se reconstituer. Non, 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 du chemin du Père, du Saint-Esprit. Allez, hop. Amen. Non, mais enfin, casse-pied. Bon, donc, même si c'est un petit point d'orgueil, si je le vois pas, on y va. Pour que ça dégage quand même. C'est ça, je pense, quelque part aussi. Hein. Il y a quelque chose à faire. On est comme on est. On a un côté superficiel, bon, on a un côté grosse caisse, bon, voilà, on fonctionne avec ça, c'est pas grave. Hein. Mais sur l'essentiel, oui, sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la dernière purification, là, c'est grave. Et on peut demander, vous voyez, ces trois, c'est ça ce que demande le Saint-Père, enfin, il faut une nouvelle jeunesse, là, qui soit intrépide. Virginale, intrépide. Sans compromis, c'est l'avantage d'une jeunesse. Surnaturellement intrépide, et puis... vraiment virginale. Et cette nouvelle jeunesse, cette Jérusalem nouvelle qui arrive, là, qui doit arriver, qui... c'est la jeunesse de notre vie spirituelle. Il y a quelque chose de notre vie spirituelle qui peut pas être, qui peut plus appartenir au monde ancien, quoi. Mais non, dans ces jours-là, on se marie, on va, on construit des maisons, et puis tout. Sans se douter de rien. Mais au jour du Fils de l'homme, il en sera de même. Au jour du Fils de l'homme. Et pourtant, quand même, au milieu de tous ces gens-là, au milieu de Noé, il y avait encore Mathusalem, il était encore vivant. Hein. Le fameux Mathusalem. Hein, fils d'Enoch.
Il a été noyé pendant le déluge.
Ben, il me semble qu'il était vivant de temps de Noé. Hein. Si je lis bien la Bible, n'est-ce pas? Enfin, quand même, donc, il y avait quand même Noé, tu es au courant, Noé, oui. Noé. Quelques-uns, quoi. C'était 70, quand même. Parce qu'il a quand même pas construit cette arche tout seul. C'est pas symbolique, hein. C'est aussi symbolique, bien sûr. Comme aujourd'hui, il en est de même de nos jours. Bien sûr, il y a le roi. Hein. Il construit une arche. Et il n'est pas seul à la construire. Et sur ce... Je crois que Noé, Dieu n'a pas eu besoin de lui dire deux fois. Hein. C'était 40 ans avant. Vraiment champion, hein. Noé. Parce que dans les montagnes, là, il faut que tu construis un bateau. Mathusalem, il est venu le voir en disant, écoute mon fils, excuse-moi. Il dit, non, il a dit, écoute, je ne peux rien. Adonai, tu ne l'as pas dit, moi, il me l'a dit, alors. Oui, mais moi, il ne me l'a pas dit. Bon, ben oui, il ne te l'a pas dit, mais moi, il me l'a dit.
C'est Dieu qui lui a dit directement, ou c'est Enoch?
À Noé.
Ou c'est Enoch?
C'est Noé.
Non, non, mais c'est Enoch qui l'a dit à Noé.
Non, c'est non, Dieu.
Parce que Enoch est monté au ciel, c'est Dieu qui a dit à Enoch, il faut que ton petit-fils construise une arche.
Ah, ouais, tu as vu ça où? C'est possible, mais je ne crois pas avoir lu ça, moi. Ben, mais peut-être que c'est quelque part. Hein,
ouais. J'ai lu ça.
Bon, de toute façon...
Dans le livre d'Enoch.
Ah, dans le livre d'Enoch, ouais, c'est possible ça. C'est possible que ça soit venu par Enoch. C'est possible que ça soit venu par Enoch. C'est possible, j'avoue que je ne sais pas tout, hein, mais...
C'est son grand-père.
Voilà, c'est son ascendant. Il fait partie de son ascendant.
La famille, je ne sais pas si c'est le père de Mathusalem. Mais...
Et Enoch était encore vivant, quoi. Il a une certaine arche angélique là-haut, hein, puisqu'il est sur le nœud, la nacelle, j'allais dire, du firmament du ciel, hein, c'est-à-dire une espèce de nacelle particulière, très difficile à décrire quand on ne sait pas ce que c'est que le firmament du ciel. Et il demande à Noé de construire une arche. Dans le firmament de la terre, quoi.
Parce que décider de construire une arche, si c'est pas Dieu lui-même qui lui a demandé...
Ah, c'est Dieu qui lui a demandé, ça c'est sûr.
Mais...
Je suis sûr que c'est Dieu qui lui a demandé.
Et si c'était pas Dieu?
Mais si c'était pas Dieu directement, c'est-à-dire qu'il a pris obéissance auprès de celui qui lui a dit. Parce que prendre un ordre de Dieu, entre guillemets, c'est facile. Prendre un ordre de quelqu'un
c'est qui... C'est plus difficile. C'est quand plus... Dieu passe par un intermédiaire... C'est compliqué. Quand Dieu passe par un intermédiaire, il demande la foi. Par exemple, Dieu demande à Marie, il passe par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qui a apparence humaine, donc il demande la foi.
Oui.
Si c'est Dieu directement, c'est-à-dire immédiatement, c'est-à-dire sans médiation, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'espace, de la domaine glorieux qui s'est effacé. De nous à Dieu et de Dieu à nous. Et donc, c'est plus dans la foi qu'on le fait. Hein. Et c'est pour ça que c'est dès que, avec la nouvelle alliance, avec la grâce, avec la foi, Dieu nous demande, Dieu passe par des intermédiaires, d'où effectivement l'obéissance. Et c'est pas parce qu'on est dans un état de très très grande intimité avec Dieu qu'on ne doit pas passer par l'obéissance. L'Antéchrist, qu'il le veuille ou non, il devra toujours rester dans l'obéissance.
De toute façon, il y a un ordre de Dieu, on obéit, il y a un ordre par un intermédiaire, on obéit. Mais pourquoi des fois ça passe par un intermédiaire et pourquoi des fois...
Parce que l'intermédiaire montre qu'il y a la foi. Quand c'est Dieu directement, il n'y a plus la foi puisque c'est Dieu.
C'est évident.
Oui, alors pourquoi Abraham a reçu directement, Moïse a reçu directement?
Moïse n'a pas reçu directement, Moïse a reçu par la médiation du Messie, et oui, d'Elohim, d'Adonai.
Oui, enfin, le buisson ardent, quand il est monté sur
le... Ben c'est le Messie.
C'est directement, quoi.
C'est Dieu dans le Messie.
Oui.
C'est pas, il y a toujours la présence messianique qui voile.
Oui, oui. D'accord.
Et pareil pour.
C'est plus direct, néanmoins que.
Pour Abraham, il y a des médiations. Hein, des médiations, on voit bien. Hein, c'est toujours une médiation. Même si Dieu parle à travers la bouche de la médiation. Hein, mais c'est que la voix de Dieu ou la parole de Dieu qui s'exprime à travers la médiation. Hein, Melchisédek, c'est quand même pas Dieu. Et, mais les trois hypostases du chêne de Mambré, c'est bien les trois personnes de la Très Sainte Trinité, mais quand même à travers l'apparition de ces trois hypostases visibles. Hein, et donc il y a bien aussi celui et la voix qui s'exprime et se fait entendre, et qui c'est d'un des trois. Voilà, donc c'est bien par la médiation du Messie aussi, quelque part. Hein. Puis, voilà, donc à chaque fois, il y a une médiation, sinon ce n'est plus, sinon il n'y a plus l'obéissance de la foi, c'est ce qu'explique saint Paul, hein. C'est pas la foi qu'ils ont entendu, et la parole de Dieu, donc il y a bien une médiation. Il y a toujours une obéissance, bizarre ça. Mais on a du mal à comprendre l'obéissance, parce que l'obéissance est à quelque chose de qui contraint notre liberté. Voilà. La liberté, c'est le maître monde, dit, mais la grâce nous rend libres. Donc si je suis dans une plénitude de liberté, je ne vais pas à nouveau pécher contre cette liberté donnée par la grâce pour obéir à un autre, quoi. Et pourtant, si il le faut, il le faut. Quelqu'un te demande, nous les moines on le sait, ton supérieur te demande quelque chose qui n'est pas bien, et tu sais qu'il te le demande par jalousie, par haine, par méchanceté, tu le sais, enfin, lui-même il le sait aussi, il disait, ben, tu obéis quand même. Il faut que tu obéisses, hein. C'est moi, il faut que tu obéisses.
C'est pareil quand il y a des abus sexuels, etc.
Ah.
Je parle
de quelqu'un qui a autorité.
Obéir à n'importe quoi.
Vous obéissez pas à votre cochon, hein. D'accord.
Non, puis pas, quand bien même c'est notre supérieur, on n'obéit pas à n'importe quoi.
Oui, on obéit à la manière du Saint-Esprit, mais on obéit quand même. Donc il y a. On obéit quand même. Donc il y a une espèce de. Et notre obéissance, c'est-à-dire notre manière d'obéir, répare le mal qui est inscrit dans l'impérium de celui qui nous demande quelque chose. Hein. Et si on ne fait pas ça, ben, c'est plus une œuvre de Dieu. Dans la vie des moines monastiques, dans la vie spirituelle, on le constate, ça c'est un fait d'expérience, quoi. L'œuvre de Dieu se fait pas, quoi. Alors, plus c'est éloigné, quoi, tu sais que c'est pas la volonté de Dieu, ton supérieur te demande, tu dis bon, tu le dis à ton supérieur, tu dis, bah, écoute, tu sais très bien que c'est pas juste. Mais ça fait rien, j'obéis quand même, c'est bien. C'est pas grave, hein, parce que si c'est pas moi qui suis l'instrument de cette œuvre ou parole à donner, j'obéis, Dieu choisira quelqu'un qui sera beaucoup plus emmerdant pour vous. Hein. Et ce sera plus fécond, hein, très bien. Donc je m'efface parce que hein, quand quelque chose ne vient pas sur quelqu'un, tac, il va sur quelqu'un d'autre. Et du coup, ça se fait d'une manière beaucoup plus spectaculaire, féconde. Donc c'est pour ça que l'obéissance est toujours juteuse, de toute façon. Ou autrement, en tout cas. Autrement. Voilà, mais c'est vrai que l'obéissance, la virginité et l'humilité sont vraiment les trois clés, quoi. Et c'est pour ça que dans cette consécration virginale au roi, c'est-à-dire à l'humilité, on va rentrer dans l'obéissance, quoi. on ne pourra pas faire comme si, comme si, comme si. C'est pour ça que je comprends pas. Si je les comprends, mais c'est pour ça que je ne peux pas faire comme ceux qui disent voilà, on n'obéira pas au Saint-Père. Je ne veux pas obéir à François. On est sûr que c'est un traître, mais non. Pourquoi tu sais, non. Sûrement pas. C'est toi qui le dis, c'est ton opinion, d'une part. Mais pour de très 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 bonnes raisons, dire moi j'obéis pas au Saint-Père. Bah. Non. Non, non, ça peut pas aller, ça peut pas aller. C'est à toi de dire, tiens, j'ai peut-être pas compris comment Dieu se sert du Saint-Père pour me faire obéir au Saint-Père. Voilà, parce que c'est une manière nouvelle d'obéir, c'est une manière de Saint-Esprit de faire entrer en un catacombe. Un catacombe du Saint-Dessin. C'est extraordinaire cette obéissance-là. On peut être en colère, hein, je suis d'accord. Mais il faut rester dans l'obéissance. Une sainte colère, on peut dire, voilà. L'Antéchrist n'obéira pas, je crois, moi. Et du coup, parce qu'il y a ce petit feu, ce petit point d'orgueil. Son cœur n'est pas totalement pur. Parce que ces trois vertus sont en vase communicant, hein. Dans les conseils évangéliques, c'est clair. Alors bon, ben, c'est le premier jour aujourd'hui, après, c'est la deuxième messe de toute l'année, de tout ce millénium. Là. Et pour moi, personnellement, je suis très touché que ça tombe au 151e jour du compte à rebours. Et là, il y a aujourd'hui, demain et après-demain, je sais pas, c'est personnel, hein, je reconnais. Il y a un côté personnel. C'est lié à la conception de mon frère. Je reconnais, c'est vrai. Et quand même, ce 53, hein, on va toucher, quoi. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait quelque chose. On va toucher, quoi, ce moment de Saint-Jean-Baptiste, là, au 153e jour. Il va y avoir. On ne peut pas deviner quand arrivera le jour de la venue dans sa maison, dans sa dessin, du temple de son cœur battant, quoi. Ouais. Toucher ce moment, parce que ce moment-là, il a marqué. Hein. Ah, vous pouvez pas savoir. Il a marqué. Ça a introduit des champs morphogénétiques universels, mais spectaculaires, quoi, dans la nature humaine. Ce qui se passe au 153e jour, quoi. De la vie embryonnaire, hein, c'est. C'est du feu, c'est une libération, c'est une pomme de corde, une visitation, mais le silence, le double silence transverbéré des deux papas, quoi. Le magnificat indivisible de deux mamans, mais, la maman du ciel, la maman de la terre, la maman du Saint-Dessin, la maman de la plénitude de grâce. Et les deux engendrer la Sainte Famille, quoi, la responsabilité surnaturelle accomplie, surnaturellement transactuée en Dieu, quoi. Deux fécondités, la fécondation de Jean-Baptiste vient de Marie-Joseph, et du point de vue de cette palpitation, cette petite olive palpitante lumineuse qui venait du principe créateur de Dieu, qui était inscrit au milieu de la boue. Il avait formé Adam. Et la bénédiction d'Abraham. ça se ressemble. Embrasser dans un feu unique pour un parfum qui fait voilà, qu'il y a quelque chose qui, quand tu rentres dans cette chambre-là, dans cette demeure-là, il y a un parfum très spécial qui est inscrit, qui appartient à tout être humain s'il le veut bien. S'il le veut bien. Voilà, tout le mystère du rosaire, c'est si vous le voulez bien, ce mystère est à vous. Et de faire ce parcours eucharistique comme ça, virginal, surnaturel, naïf, c'est vrai, mais voilà, il y a 151, 152, et puis 153. Je pensais à Élie Enoch, justement, parce que à ce sujet, si voilà, 151, on sait qui c'est, ça. 152, 153, ben, est-ce que la messe a été dite par un prêtre, un apôtre, un évêque, je crois, un successeur des apôtres, pour que la conception d'Élie, le prophète, puisse être plantée dans le calice eucharistique de l'ouverture des temps de la fin? Ça ne pourrait pas être fait par un prêtre avant qu'il y ait l'ouverture des clés sur le Saint des Saints. Donc c'est récent. Alors quel est le prêtre? C'est pour ça que quelquefois je me dis, Père Patrick, tu peux être fier de toi. Hein? Et à chaque fois je dis oui, mais avec la poussière et la cendre, parce que ça va quand même pas me prendre pour quelques semaines. Mais en même temps, je suis content parce que je suis content d'y avoir pensé. Quoi. On va y penser et on va le faire. Parce que pour moi, dès qu'il y a un truc, je le fais. Je traîne pas. C'est tout de suite. Je parle de. Je ne veux pas lâcher un truc. Ça m'est arrivé de constater l'un ou l'autre qui ne faisait pas tout de suite et sa vie part en quenouille, mais alors misérablement. Ah, oh, c'est des gens que j'aimais bien. Ah, oh, j'ai vu ça combien de fois. Des gens que j'aimais bien. Oh. Allez, on m'a demandé. Alors bon, je sais pas, mon frère a été inspiré. Alors du coup, je suis arrivé. C'est extraordinaire. L'obéissance de Dieu. Non, mais c'est vrai. Et là, Élie et Enoch, est-ce qu'un prêtre, est-ce que le sacerdoce. C'est le genre de mec qui s'énerve, quoi, efficace, la présence réelle. Jésus ne peut pas le faire, ça. Son sacerdoce ne s'exprime qu'après sa mort. Et donc, il est à droite du Père, donc il ne peut pas exercer son sacerdoce dans la foi, de son même, de son vivant. L'utilité de son vivant, il ne pourra pas plus, puisqu'il est dans la vision béatifique. Donc voilà, vous comprenez ça. Il faut donc que ce soit dans la foi. Est-ce que Jean, l'évangéliste, est-ce que Jean a célébrer la messe avec Marie, ça, une question, c'est quelquefois. On se pose des questions théologiques, c'est biblique. Ils ont demandé quoi tous les deux pendant 22 ans à chaque messe hein. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'il faut faire ça. Les choses doivent se faire avec nombre, poids et mesure. Voilà, donc la fécondité et l'efficacité d'un sacrement, le fruit d'un sacrement. Les fonctions du mystère de l'obéissance à l'Église au pouvoir des clés. Celui-là est plus léger, c'est plus simple. Plus chaud et plus léger. Celui-là est plus chaud et plus léger.
C'est pas pour les mettre là, c'est pour mettre là.
Alors Élie et Enoch. J'ai remarqué une chose, c'est que quand quelqu'un reçoit l'inspiration du ciel, je pense à Thérèse d'Enfant Jésus, par exemple, en même temps qu'elle, la même inspiration, plein d'autres. Mais on le découvre après. C'est les heures qui suivent, les jours qui suivent. Donc, je suis sûr, ayant reçu cette inspiration, je ne suis pas le seul. Alors, de savoir si j'étais celui qui a ouvert le feu, qu'est-ce que ça peut faire? Du moment que c'était la volonté de Dieu. Alors, Élie et Enoch, ben, il faut que le prêtre célèbre la messe pour que leur conception soit réellement, substantiellement plongée dans la transformation surnaturelle. Eucharistique transsubstantiel de la conception immaculée de Marie, de la Sainte Famille Glorieuse, et que de là, le corps spirituel, venu d'en haut, puisse se lever avec la mémoire corporelle, quoi, chrétienne, messianique finale, de Jésus dans son corps personnel. Alors, Élie et Enoch, voilà, dès le départ, ils étaient invités, bien sûr, avec nous. Et puis, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, leur conception. Cet édifice qui se construit comme ça, avec tous ces. Avec chacun de ces colonnes qui ont été choisies comme principe dans l'histoire de l'éternité dans le temps, quoi. C'est beau de savoir ce qui s'est passé. Et je sais que très. Il me semble que Élie et Enoch, évidemment, ne peuvent pas revenir comme ça uniquement avec. Comme les deux témoins et les deux menorahs d'Apocalypse. Pour le roi, quoi. Non. Ils ne peuvent pas venir comme ça sans être incorporés. Et il faut qu'au niveau du cœur embryonnaire, si je puis dire, au niveau de la visitation embryonnaire, donc quelque chose de très caché finalement, quelque part, et il soit présent physiquement déjà avant le grand miracle, c'est-à-dire leur arrivée, j'allais dire, plus visible sur la Terre. Il y a une constriction dans le sein maternel qui ne se voit pas aux yeux. Peut-être, oui, certaines formes. Mais c'est tout. Mais ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé pour nous, ce qui doit se passer pour nous, dans la mise en place du corps spirituel embryonnaire, dans la mémoria dei, notre conception. C'est extraordinaire, quoi. C'est vrai, je n'ai pas demandé. Le 151e jour, 152e jour, c'était il y a 60 et quelques années. Pas ça de ma mère, mon frère non plus. On n'avait pas demandé, Saint-Joseph l'avait demandé, mais nous non, on n'a pas demandé pardon. D'être. Ensuite, on avait fini par s'y habituer. D'être dans un espèce de placenta. Qui était mêlé à l'esprit du monde. Hein. On le sait, hein, que finalement on avait fini par s'acclimater à ça. Et on aurait pu chaque jour demander pardon. Chaque jour aurait pu être un sursaut pour demander pardon, réclamer l'union hypostatique des cieux de Jésus. Et ce qu'il a vécu au 151e jour, pour remplacer ce qu'il fut dans notre, dans ce que nous n'avons pas voulu être ce jour-là, dans la rédemption, identifié totalement comme en vivant Jésus vivant et entier, quoi, dans son unité apostatique. C'est vrai, cette demande de pardon, on doit la faire. Nous avons résisté longtemps, le petit cheveu, du point d'orgueil, est beaucoup plus résistant, beaucoup plus tenace, beaucoup plus inexcusable que ce qu'on peut en penser. Hein. après, je sais pas, ça y est, c'est exactement ce point de jonction. Quand le point de jonction va se faire, ça les retouche. Les bateaux vont s'aborder. Ça, c'est la fête, là. Compte à rebours, je sais pas. C'était qu'une idée personnelle, ça je l'avoue, hein, c'est vrai. Il n'y a eu aucune apparition. Mais bon, une inspiration peut-être un petit peu de faire. Mais puisque vous êtes là, c'est pas par hasard. Hein? Donc vous êtes engagé dans cet admirable exercice. Et vous dites, me voici, je me plonge dans le précieux sang, à l'instant de la consécration, là. Je me plonge entièrement dans le calice du précieux sang. Dans ce que je suis aux 550, dans les 150 premiers jours de ma vie. Et me voici entièrement transsubstantié dans ce que j'aurais dû être si j'avais été comme l'Immaculée Conception, comme Saint-Joseph. Dans les 150 premiers jours de Jésus, cette transformation est totale. Et ce qui en a été de moi a disparu. Un nouveau ciel apparaît et je ressors du calice, transsubstantié, transverbéré, transglorifié, transpiré de manière sponsale, quasi agréé, pour être. Voilà. Libre de tout ce qui m'empêche d'aller à la rencontre du roi, parce que bon, on a bien compris. Il reste quelques petits espaces, il faut qu'on appartienne, qu'on soit un seul cœur, quoi. Avec le maître du Saint-Saint, quoi. Avec le Saint-Père aussi. Et du coup, il y a une proximité avec les 153 autres, là, qui est troublante, quoi. On ne peut pas ne pas l'éprouver, hein, à un moment donné, tu vois. Abraham, Moïse, Adam, Abel. Ouh. Ils sont là. On n'est pas mélangé, c'est pas ça, mais on n'est pas identifié les uns aux autres, non, c'est vrai, mais on n'est pas en péricorèse, c'est vrai, et pourtant, oui, quand même, quelque chose comme ça. Ces pierres vivantes sont toutes interchangeables. Je pense que vous comprenez ce que je dis, non?
Hein? À peu près. À peu près.
On est interchangeables. Quand on passait les concours, mon frère était beaucoup plus fort en maths et moi beaucoup plus fort en philosophie. Alors, c'est commode. Hein? On était interchangeables. Je trahis pas de secret, j'espère. Du coup, on pouvait passer certains concours.
Vous voulez dire qu'il y en a...
Ah non, j'ai rien dit du tout.
Il y en a un qui est passé les deux épreuves et l'autre les deux
autres. J'avais rien dit. J'ai rien dit du tout.
On est interchangeables.
Quand on est seul, c'est plus compliqué.
Oui. Et quand on est avec jumeaux, garçon.
Et c'est ça la charité, hein. On est interchangeable. Surtout si on a la même âme de Dieu. Ou une mémoire interchangeable de Dieu. Et c'est ça qu'on a avec Jésus l'Eucharistie. Jésus dit, faites ceci dans ma mémoire de Dieu. On a une mémoire de Dieu interchangeable entre Jésus et nous. On a une mémoire Mais nous faisons mémoire de la Vierge Marie. Nous avons une mémoire de Dieu interchangeable avec la Vierge Marie. Enfin, c'est notre messe du dimanche. C'est la première messe du millénium. C'est beau que vous soyez là.
Ben oui, je ne savais pas que c'était la première messe du millénium. Je ne connaissais pas le cycle.
Et puis voilà, c'est... Et puis c'est... On sait très 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 bien, on sait très très bien qu'il ne faut pas laisser percer le mur de la maison. Sur l'aile gauche du temple, dans l'Aquilon, là, voilà, relire Saint-Hildegarde, l'Aquilon. L'Aquilon, là. Ah oui, faut le suggérer à ceux qui nous aiment bien. Faut pas laisser percer le mur de la maison, faut l'habiter. Saint-Dessin, l'embaumé, Lunard. Et c'est un art caché, évidemment. Et c'est cette nouvelle illustration, on allait dire, cette illustration de liberté dans l'ordre du temps, quoi. L'interchangeabilité, c'est à cause de l'interchangeabilité qu'on ne peut obéir. C'est très bien, tu me demandes de pas faire ça, je le fais pas. Mais je suis interchangeable, moi. Alors du coup, bah, Seigneur multiplie par 100, et ça fait 100 fois plus, et donc l'autre est bien feinté. La fois suivante, il dit, bon, je vais lui demander de faire, même si ça ne me plaît pas. Sinon, ce sera pire. En supposant que ce soit un ennemi de Dieu. Mais il faut toujours obéir. Tu as parlé à un autre que moi, c'est pas à moi qu'il a parlé. S'il voulait vraiment que je l'entende, il fallait qu'il passe par un autre. Il fallait passer à moi directement. Merci Martin Luther de nous avoir expliqué que si on fait comme ça, on part en vrille, on finit par se pendre. Voilà. Qui dit oui, et c'est l'autre qui fait l'acte, c'est l'autre qui voilà, c'est extraordinaire, en vérité, c'est vrai. Jésus meurt sur la croix et c'est nous qui faisons l'acte de l'homme divin la plus sublime qu'il ne peut pas faire, parce que lui, il n'est pas dans la foi. C'est pour ça que l'union hypostatique déchirée, quand elle s'actue par la foi en nous, hein, fait quelque chose de plus grand que toute la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr. Ce que vous voyez que je fais est grand, mais ce que vous aurez à faire est beaucoup plus grand encore que celle que je fais. Il y a une interchangeabilité à cause de l'obéissance de Jésus. Réciproquement. Eh bien, c'est des mots, ça. Il faut bien le reconnaître, hein, que depuis 50 ans, on n'aime pas chasteté, virginité, humilité, obéissance. Alors, amour aussi. Du coup, ils sont tordus, ces mots-là. Ils sont tordus. Il faut réapprovisionner ces mots par l'immaculée conception, par la mémoire, par la présence, par l'intersensibilité avec elle. Et c'est ça que va nous donner l'avertissement, hein, cette Pentecôte extraordinaire. Là, au moins, les mots ne seront pas tendus, là, on va voir. Mais on peut anticiper quand même. Oui, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est génial. temps qu'on va célébrer cette messe quand même. Ils sont quand même gonflés, quoi. Même si encore planqué derrière le mur, là. Ils continuent à le faire. Bon. Alors j'ai entendu une voix qui dit « Viens ». Et je viens, fils d'homme, il avait une tablette. Et sur l'autre dit, marque sur le front. Tu signes. Tout seul. Qui pleure à cause de ce que c'est mis eux-mêmes. Se laisser marquer sur le front, hein. Même si on pleure pas assez à cause de ça. Souvent on pleure parce qu'on est mal, parce que mon cerveau marche pas, je pleure.
Oui,
je pleure aussi parce que j'ai des petits amours, au moment de couper, non, je pleure à cause de ça, je connais. Si, ah, est-ce que marquez-moi sur le front. Saut d'esprit. C'est beau ça, marquer sur le front, comme ça. Voilà. C'est pour la messe, pour ça de savoir que c'est l'instrument de la délivrance, de la libération. On n'est pas libre encore avec tous ces trucs-là. Pas vraiment libre, hein, pas vraiment. Et encore. Hein. Mais non. Et une libération qui n'est pas. Qui n'est pas complète, quoi, c'est ça. Alors, vous me direz, c'est notre croix, c'est notre point d'orgueil aussi. Alors, le désirer dans l'état embryonnaire, c'est plus facile, parce que on se trouve comme dans l'état antérieur de préparation, et c'est plus facile de renoncer par avance. Et quand dans notre corps spirituel venu d'en haut, dès maintenant, dans notre état adulte, on reprend cet état qu'on avait laissé à l'époque, pour le reprendre dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour qu'il vivifie, illumine, parfume et transforme et se réalise dans ce qu'il signifie en nous. À ce moment-là, voilà, c'est plus facile, c'est sûr. C'est plus facile. Et finalement, il a raison le pape Jean-Paul II, on va mettre notre identité et notre personne beaucoup plus dans cette innocence d'origine, lorsqu'elle se trouve sur cette crête extraordinaire où elle est en contact d'abordage avec l'innocence. notre Jésus-Christ. Et là, c'est notre monde nouveau à nous, dans la théologie du corps, qui permet à notre âme de ressurgir de la surface pour être emportée, marquée par le signe du Fils de l'homme. C'est plus facile, c'est vrai. Et je suis très content que ça le soit facile, parce que, bon... Et que ça va devenir universellement facile pendant 20 minutes pour tout le monde. Mais après, il faudra s'accrocher pour rester fidèle, pour faire grandir ça, quoi. C'est ça qu'il faudra faire grandir. Le reste sera toujours derrière. On va toujours le traîner. Peut-être, si on fait pas gaffe, quoi. Si on fait pas attention. Mais c'est à ça qu'on s'accroche pour faire grandir. Ça va se venir. Au lieu que ce soit un poids énorme, ça va devenir un poids de plume. C'est... Et dès maintenant, vous voyez, je sais pas, on va célébrer cette messe-là, parce que vous savez, je ne vous donne pas un grand secret, je pense, en disant que c'est quand même dans ce millénium, probablement, qu'on va avoir l'avertissement. Hein. Je crois que bon, c'est pas une révélation, je pense. Bon. Donc quand même, ce millénium, c'est important, là. On l'engage. C'est très important, vous savez, le premier pas. C'est lui qui vous donne la direction, il conditionne tous les pas qui vont se faire après. Le premier est toujours très important. C'est vrai. Donc pour cette messe, moi j'ai envie que vous, moi, tous ceux qui peuvent, puissent être marqués, quoi, du signe. Voilà. Et puis s'accrocher à ça et continuer avec cette arche immaculée d'innocence triomphante divine royale. Du véritable Israël de Dieu, il s'accroche à ça, de l'intérieur. Et voilà, le reste va disparaître de toute façon. C'est ça qui va grandir. Il va prendre des dimensions énormes. C'est pas petit à petit qu'il va grandir, petit à petit qu'il va grandir jusqu'au jour de l'avertissement, c'est vrai, mais au jour de l'avertissement, c'est d'un seul coup. C'est d'un seul coup. Il va surgir cette espèce d'extension. Oui. Et si on a été choisi pour être les porteurs, quoi, de ça, par anticipation, ça nous met évidemment encore en interchangeabilité moderne, j'allais dire, un siècle après, avec Saint Jean-Baptiste, avec le précurseur, quoi, de l'Église glorieuse du monde nouveau et de la Jérusalem qui doit paraître, qui est déjà conçue. Conçu. Merci très Saint-Père de nous avoir expliqué. Voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Mais on va célébrer quand même. C'est ça qui compte. Je te donne mon cœur, broyé comme l'olive au pressoir. Laisse-moi t'envahir de mon huile nouvelle. Je te donne mon cœur, broyé comme l'olive au pressoir. Laisse-moi t'envahir de mon huile nouvelle. Je te donne son cœur immaculé, transpercé par le glaive du ver. Laisse-la t'emporter dans les profondeurs de l'éternelle lumière. Je te donne son cœur ouvert comme Dieu dans ta terre. Laisse-le t'entrouvrir entrevoir le voile que te sépare du Père.